Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, incroyable épisode de février 2023. Bonne année!
Bonne année, joyeux Noël,
ça
fait
depuis. Ça ne se fête plus en février, ouais, pardon.
On fait tout.
Sincèrement, désolé d'avoir manqué autant d'épisodes et autant de régularité. Commute va essayer de revenir en 2023 avec plus de sujets, plus de structures, mais aussi plus de régularité. Je serai toujours en compagnie de mes fidèles acolytes. Chloé, comment vas-tu ?
Mais ça va très bien. Bonne année, Ken. Bonne année, Victor.
Bonne année à toi aussi. Et Victor ?
Ben ouais, mais c'est à cause de Valérie. Valérie Pécresse, les métros, ils étaient en retard. Il n'y a plus de fréquence, donc il n'y a plus de podcast. Non, c'est pas vrai.
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume dans Commute, c'est jour de grève. Il faut le savoir.
Attends, faudrait qu'on les compte, les épisodes où on a eu de la grève, parce qu'on a accompagné les mouvements sociaux depuis notre inception.
C'est vraiment assez incroyable. Et aujourd'hui, un Commute qui va avoir une structure différente, un peu comme chaque épisode qu'on va essayer de vous faire chaque mois. On va essayer de rattraper un peu le retard depuis que l'on ne s'est pas vu, avec beaucoup d'actualités sur lesquelles on avait vraiment envie de revenir, mais qui nous ont glissé, faute, on va dire, de rendez-vous trouvés tous ensemble. Et ensuite, on prendra beaucoup de vos questions. Vous avez été nombreux à nous poser des sujets sur la mobilité de manière générale, sujets qui, parfois, méritent énormément de développement et que nous allons, on va dire, si nous trouvons ça intéressant, développer, si nous trouvons le temps, nous allons essayer de développer. Je vous rappelle que si vous lancez évidemment ce podcast, que nous allons essayer d'être un peu plus concis cette saison. Nous avons bien entendu la totalité de vos remarques. Et notre but est de faire en sorte que le podcast soit le plus digeste possible et que vous puissiez l'écouter, évidemment, sur votre temps libre. Aujourd'hui, donc, trois news et très probablement trois points développés de vos questions qui ont été posées sur le Discord de Commute.
Et sur Twitter.
Et sur Twitter, c'est vrai, via ton tweet que l'on a relayé tous, mon très cher Victor. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec la première news. Et c'est toi, Victor, qui va revenir un tout petit peu sur un point d'actualité que tu voulais aborder, un point d'actualité Elon Musk, évidemment.
Ouais, je trouve qu'on n'en avait pas assez parlé ces derniers mois, mais je ne vais pas parler de Twitter, moi je vais vous parler de Tesla, puisqu'il y a une news qui est sortie dans le cadre d'un procès récemment qui se déroule aux États-Unis, puisque la firme californienne de Tesla a été mise en cause pour arnaque, parce que c'est une société de consommateurs qui les a mis devant les tribunaux sur le fait que leur autopilote qui est vendu dorénavant maintenant près de 30 000 $ n'était pas fonctionnel. Donc en fait, tout l'intérêt du procès a été de montrer s'ils ont sciemment menti sur les capacités de l'autopilote, ou si c'est juste qu'ils étaient un peu trop optimistes et qu'en gros ils se sont fait un peu rattraper par leurs promesses et que en gros ils voulaient mettre quelque chose en bêta, donc c'est-à-dire en accès anticipé, et que ils avaient vraiment l'intime conviction de le faire jusqu'au bout ou pas. Ce qui a donné lieu à des choses assez intéressantes, notamment un des anciens ingénieurs en chef qui est venu témoigner donc sous serment que la démonstration que vous avez peut-être vue à l'époque, c'était en 2016, de la première Tesla et de son autopilote qui faisait un trajet. jusqu'à un parking de supermarché totalement en autonomie.
Ouais.
Et on s'est rendu compte que c'était absolument bidonné.
Oui.
Que c'était non seulement sur un trajet qui était prédéfini et repéré par les ingénieurs, mais qu'en plus de ça, ça avait été... d'aucuns diraient édité, d'autres complètement truqué. C'est-à-dire que même l'ingénieur avait dit, quand on lui a posé la question, est-ce que la voiture est rentrée dans un trottoir, il a dit non, et dans une barrière, il a dit ça, je ne peux pas le nier. Ah. Donc voilà, il y a eu quelques problèmes. Et ça intervient à peu près au même moment où Mercedes a annoncé qu'ils ont atteint l'autonomie de niveau 3.
Tout
je vous renvoie sur
fait.
La chronique que tu avais fait sur les niveaux de l'autonomie.
Tout à fait.
Sachant que Mercedes, on parle un peu de l'histoire automobile, c'est un constructeur qui a été très très précurseur en termes de sécurité automobile, notamment dans le déploiement des airbags, des systèmes d'assistance freinage et tout ce qu'en gros... les systèmes de sécurité qui vous empêchent d'avoir un accident ou du moins qui le rend moins grave. Donc si eux ont mis autant de temps à rattraper le coup et qu'ils l'ont annoncé, on peut mettre en doute sur les capacités de Tesla à moyen terme de même, atteindre leurs promesses qu'ils avaient fait il y a déjà plus de 5 ans. Donc ça a entraîné des turbulences fortes sur le cours de l'action qui a dévissé de près de 70% l'année dernière malgré les bonnes ventes. Ça a remonté un petit peu depuis.
Très surestimé après.
Le stock de Tesla est une valeur spéculative. Et moi c'était un peu, pour clôturer cette petite news d'intro, quelles sont vos prévisions pour cette année? Puisque moi je prévois, pas pour 2023 mais pour... avant 2030, on va dire, je ne pense pas que Tesla va survivre. Voilà, c'est un peu mon pari.
Ah, carrément.
Ouais.
Pense que Tesla, on en avait déjà parlé dans une chronique d'avant, je pense que Tesla va louper la deuxième phase de véhicules électriques. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se réinventer après la gamme qu'ils ont sortie, là, de modèles donc S, 3, X et Y. Je pense qu'ils se sont fait dépasser déjà en termes d'innovation par d'autres startups comme Rivian qui équipe maintenant la poste américaine.
Et c'est vrai.
Et avec donc des fourgonnettes, et je pense que les constructeurs automobiles type Volkswagen, maintenant qu'ils sont rentrés dans le game, ils vont les laisser dans le rétroviseur. Et je pense que le fait qu'ils aient baissé beaucoup les prix dernièrement indique qu'ils sont un peu menacés.
Alors moi j'ai deux questions. Okay, la première question, c'est est-ce que ça veut dire que actuellement toutes les Tesla sont des dangers sur la route?
Non, parce
que... l'autopilote est problématique.
Parce qu'en fait, je pense que Tesla, si tu retires l'autopilote, c'est des voitures qui marchent assez bien. Ça a des défauts, mais...
Mais si tu l'enclenches, tu peux...
Alors, l'autopilote n'est jamais autonome sur une Tesla.
Ah oui, parce que je suis un peu nulle là-dessus.
Là,
donc,
Victor parle juste donc, d'une bêta tu pouvais... payer pour tester et permettre justement le développement de l'autopilote.
Mais tu étais censé garder les mains sur le volant en permanence.
Exactement.
Oh, okay.
De toute façon, les lois de la plupart des pays ne permettent pas de lâcher les volants. Je vous en avais déjà parlé. Et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et en ça, bah, la chronique de Daz dans Studio 404 sur justement les intelligences artificielles et le pilotage autonome avait assez raison, dans le sens où il disait que le problème ne va pas spécialement être basé sur la technologie, mais va être de toute façon sont basés sur les législations qui sont là. Mais on voit qu'on a quand même un problème technologique parce que, au final, faire des voitures, ça incombe quand même, eh bien, aux constructeurs automobiles à un moment ou à un autre. Et même le problème de pilotage automatique sur route n'est pas qu'un problème logiciel et qu'un problème de start-upper et un problème de créateur d'algorithmes et logiciels. On a aussi un problème automobile, un problème de mobilité sur lesquels, en effet, les constructeurs, on va dire consacrés, je ne sais plus comment on peut dire, historiques, ont extrêmement l'habitude de travailler. Parce que ce n'est pas qu'un problème de développer un logiciel, c'est un problème aussi de comment l'implémenter dans les lois, comment faire en sorte que ce soit en toute sécurité, comment faire les procédés d'homologation et suivre les procédés d'évolution de l'automobile jour après jour. Chaque avancée technologique de l'automobile a mis du temps à venir ou à être admise aussi par les utilisateurs eux-mêmes des voitures.
Oui, que ce soit, on peut penser à l'acceptation de la ceinture de sécurité.
Tout à fait, bien sûr.
Ça, après, je pense qu'au-delà du degré d'acceptation, là, il y a aussi, ça montre que réellement, la technologie, elle n'était pas mûre. Enfin, sur le fond de la chronique de 404, c'était de savoir quand est-ce que les voitures autonomes pouvaient arriver et être techniquement possible. Et tout le monde a dit, ouais, c'est hyper facile, il suffit juste de gérer le trafic avec les autres. Et là, tu regardes, bah pas tant que ça en fait, c'est plus dur que prévu quoi, enfin plus dur que prévu par Musk en tout cas.
Et alors j'en viens à ma deuxième question qui répondra à ta question sur l'avenir de Tesla.
Ouais.
Qu'est-ce qui risque avec ce procès en termes même financiers? Est-ce que c'est
je pense pas
des
que ce
choses
soit,
qui
je
peuvent
je
faire
couler
une boîte
que...
Est-ce que...
va y avoir, enfin c'est une class action, donc c'est un procès qui est intenté par plusieurs individus qui se sont sentis lésés financièrement, donc là en fait ils risquent une amende, mais ça, je pense pas que ça va menacer, okay. C'est pas ce procès-là va mettre le clou dans le cercueil de Tesla. Moi, je
non, mais
que...
ça a fait baisser les actions, donc potentiellement
ouais,
c'est
ça. Je pense
ça qui
que ça,
peut...
ça a dégonflé en tout cas la hype technologique qu'il y avait derrière, parce qu'en fait Tesla, l'action était si haute parce que les gens disaient qu'en fait ils achetaient pas, enfin ils baquaient pas les voitures, mais toute la technologie qu'il y avait derrière. Et en fait, on se rend compte que la techno qu'il y a derrière, c'est des voitures électriques, quoi. Donc là, maintenant que d'autres constructeurs arrivent à faire des voitures électriques et même que Mercedes arrive à faire des voitures plutôt autonomes. Ils n'ont plus l'exclusivité, et ils n'ont plus la primauté, parce qu'il y a 10 ans, Tesla, ils avaient 10 ans d'avance,
oui.
Sauf que qu'ils sont un peu endormis sur leur laurier. Voilà.
Ils ont essayé de faire en sorte d'augmenter l'efficacité de leurs véhicules, mais c'est vrai que outre les promesses des 4 véhicules types, les autres véhicules qu'ils promettent mettent du temps à venir. Le semi sort à peine d'usine, tu vois.
Les
Cybertruck
camions, réussi,
est actuellement à l'état de scam vivant, vraiment. Il est juste là pour faire des vidéos virales sur Internet, mais n'est ni commandable, ni même lancé dans des chaînes de production. Son Tesla a bien du mal à rattraper son carnet de commandes de base. Et quant à la fameuse Model 2, ou des véhicules peut-être un peu plus adaptés à des marchés asiatiques ou européens, alors là, on est à des années-lumière de même une simple présentation d'un modèle.
Ils avaient lancé le Roadster, je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient relancé leur modèle fondateur et qu'ils n'arrivent pas à commander.
Après, c'est leur façon de communiquer, un système qui est un peu viral pour essayer de attraper l'attention des gens, mais en automobile, il arrive un moment où tu as besoin de confiance aussi en ta marque. Et en ça, tu peux pas...
Ouais, puis il faut vendre, quoi.
Tu peux pas battre,
ouais.
Alors du coup, Tesla, survivre ou pas survivre, Victor ?
Moi, je pense d'ici 2030, ce sera mort.
Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on refasse un podcast en 2030.
Ouais.
Avec notre régularité, c'est pas gagné.
Ouais, ce sera dans 4 épisodes, quoi.
Je pense que certains véhicules et certaines marques chinoises ont plus de chances d'être européens que la marque Tesla.
Mais est-ce que tu prédit la fin ou juste ça va se faire dépasser, ils vont faire des voitures normales et ils vont pas trop développer la tech?
Vu l'argent engagé, vu le déficit, s'ils n'arrivent plus à vendre et qu'il y a un manque de confiance, ils vont couler.
Ok, bon rendez-vous en 2030 pour donner des souhaits à Victor ou pas.
Exactement, on verra qui aura raison ici. En tout cas, j'ai l'habitude de louer des modèles 3 et j'ai même testé la modèle Y récemment. Je suis toujours aussi content de rouler dans ces véhicules-là. C'est terrible, tu vois. Donc,
Non, mais c'est pas une critique sur le fond du sujet. Je pense qu'en termes de véhicules électriques, ils font des bonnes choses, mais ils seront juste plus les seuls à le faire, quoi.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'avant je ne réfléchissais pas, aujourd'hui je me dis finalement une ID3, finalement une ID Buzz, finalement autre chose, c'est plutôt pas mal. On va passer à la prochaine news, et c'est toi Chloé qui avait gros sur le cœur, puisque tu veux nous parler d'un sujet terrible qui fait l'actualité de nos jours.
Eh oui, bien sûr c'est moi qui suis à la pointe de l'actualité les gars, puisque j'étais obligée de vous parler de ce qui fait les gros titres depuis quelques jours, à savoir l'accident de Pierre Palmade.
Oh, quel enfer cette histoire.
Que je pense que vous connaissez tous, donc je ne vais pas le résumer. Je ne vais pas parler de l'accident en soi. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette affaire, et j'ai envie d'avoir votre point de vue dessus, c'est toutes les questions que ça soulève sur l'accident de la route, la mortalité sur la route et la question d'homicide involontaire par la voiture. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens ont l'air très choqués, et ça fait beaucoup, beaucoup parler les gens de manière souvent pas très intelligente, mais... La mortalité sur les routes, c'est quand même une réalité. Je suis allée reprendre les chiffres de... qui sont sortis fin janvier sur la sécurité routière.
Oui, tu les as vus, ça, je les ai analysés justement dans Let's Go, moi aussi. C'est intéressant.
Donc ça remonte, mais c'est normal parce qu'on vient de passer 2020-2021 avec le Covid. Après, ça remonte un peu par rapport à 2019. Là, on était sur très légèrement. On reste à 3500 et quelques morts par an. Moi, j'ai fait un calcul rapide, ça veut dire un peu moins de 10 par jour. Ça me paraît énorme déjà.
Oui, sur les routes françaises.
C'est affreux, sur les routes françaises, bien sûr. En préparant cette émission, j'ai posé la question autour de moi parce que ça m'intéressait s'il y avait des gens qui avaient des proches morts. Et en fait, j'en ai trouvé pas mal dans mon atelier.
Oh.
Donc, c'est une réalité qu'on oublie souvent et que je trouve que cet accident de Palmade met vraiment en lumière et permet un peu de se poser les bonnes questions. Parce que... Qu'est-ce que déjà... En fait, moi, je trouve qu'on oublie souvent que quand on prend le volant, ben, on peut tuer des gens. Qu'est-ce qu'on risque quand on prend le volant et qu'on tue des gens ? Je me suis vraiment posé la question. Vous avez pu en entendre parler, ils ont fait venir plein d'avocats sur les plateaux télé. Ça reste un délit, c'est pas un crime, vu que c'est un homicide involontaire. La peine normale encourue, les peines normales encourues, c'est maximum 7 ans de prison et un certain nombre de milliers d'euros d'amende. Ça, c'est les peines encourues. S'il n'y a pas de circonstances aggravantes...
Ah d'accord, ok. Sans
en général, il y a... c'est souvent du sursis et c'est beaucoup moins fort, les peines.
Oui, d'accord,
voilà.
Ok. Ah, oui, d'accord.
Ça, c'est les peines encourues.
Ah, oui,
voilà. C'est le max que tu peux avoir.
7 ans, t'étais bourré, sous drogue et t'es rentré
alors,
dans...
Quand tu as des circonstances aggravantes qui sont effectivement la prise de substances, le retrait de permis, une erreur de conduite évidente, là on peut monter jusqu'à 10 ans de prison.
Ok.
Et une amende énorme. Mais ce que je lisais un petit peu par-ci par-là, c'est que la plupart du temps, quand il n'y a pas de circonstances aggravantes ou que tu n'as pas d'antécédents, c'est souvent du sursis. Avec bien sûr une amende. Quand par contre il y a des circonstances aggravantes, tu encours une peine plus lourde et souvent du ferme. Donc ça veut dire qu'on peut, mais on peut pas dépasser les 10 ans ferme, mais ça n'est quasiment jamais arrivé sur des accidents, sauf si vraiment volonté de nuire. Donc c'est quelque chose qu'on oublie un peu, parce que tu dis oh bah je prends la route, en fait non, il peut t'arriver des choses.
Moi ça me terrifie.
Moi aussi je me dis souvent à chaque fois que je prends mon vélo, comment je suis pas morte jusqu'à maintenant? Je me fais souvent cette réflexion.
Je suis posé la question il n'y a pas moins d'une heure, là.
Voilà, bah ça nous arrive tous les jours.
J'ai eu quelques bricoles, moi, récemment aussi, à vélo. Mais...
En termes d'assurance aussi, je me suis posé la question parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi il n'aurait pas été assuré. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors en fait, même si tu n'es pas assuré, la responsabilité civile prend en charge l'indemnisation des victimes, bien évidemment. Par contre, ton assurance peut aussi se retourner contre toi. Si effectivement tu avais bu ou que tu avais pris des substances, elle peut très bien te radier. Elle peut aussi te faire payer des primes d'assurance beaucoup plus chères et donc te retrouver avec quand même pas mal de sous à payer derrière. Incapacité aussi de t'assurer derrière, donc tu peux pas prendre la route, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense. Et puis, je me suis interrogée aussi sur le préjudice de ces morts par la route et par homicide involontaire. Il y a un volontaire dans homicide involontaire. Et c'est vrai que je trouve que c'est les morts les plus injustes. Là où tu as un terroriste, là où tu as un féminicide, tu sais que c'était volontaire sur quelque chose avec un but. Là, quand c'est quelqu'un qui a un accident et... On s'écharpe sur cette discussion sur Palmade, mais ça arrive souvent où c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Oui. Alors je dis monsieur tout le monde parce que 90% des accidents sont créés par des hommes.
Et... Oui. Ils n'ont pas tous sous emprise de stupéfiants.
Non, mais
il y a vraiment des fois, c'est dramatique.
Bien sûr, c'est dramatique, mais c'est aussi dramatique si tu t'endors ou si tu es en train de regarder ton téléphone.
C'est ça, c'est ce que je dis.
Si c'était ton papy qui a bu un coup ou à ton mariage et qui rentre. Et ça n'en fait pas des personnes horribles, ça en fait des personnes très humaines.
Je suis pas d'accord, ça.
Ah bah raconte, on est là pour discuter.
Moi, je trouve que justement, c'est un poison qui permet... à titre personnel, je trouve les peines de prison quand elles sont prononcées pour les gens qui conduisent et qui tuent par négligence très basses parce que en fait je trouve que le dédain très égoïste pour la vie d'autrui de faire passer son plaisir d'aller faire une soirée sous cocaïne grand bien lui fasse.
Non mais là on parle de la cocaïne, mais est-ce que, alors moi la première, je sais pas, je vais faire le tour, mais moi j'ai déjà pris le volant en ayant bu. J'étais peut-être en dessous de la limite, peut-être au-dessus, je ne sais pas, parce que j'ai rarement fait de test avant de conduire. Pour moi, déjà, la limite de 0,5 est un peu bête, parce qu'en fait, soit tu bois, soit tu bois pas.
Moi,
tu peux jamais savoir, en fait, à quelle alcoolémie tu en es.
Tu bois pas.
Sauf que Sauf que ça n'est pas le cas dans la loi, et je ne comprends pas trop. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire « Non, mais je suis assez grande, donc du coup, je peux boire un petit peu plus », ou des choses comme ça. Enfin, même dans, on le voit dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vous empêchez quelqu'un de conduire quand il a pris un verre ? Non.
Un verre,
alors que, oui, mais pourquoi pas ? Enfin, tu vois, on ne sait pas. Ou même, ça peut être la fatigue, ça peut être le téléphone au volant. Ça peut être le téléphone au volant, je crois que c'est une des deuxièmes causes d'accidentologie sur la route. Oui. Et pourtant, on l'a tous fait. « Ah ben non, je vais recalculer mon GPS. Je vais mettre la musique, je vais des choses comme ça. » Et en fait, il y a un vrai truc de questionnement sur ce qui est arrivé et qui est dramatique et qui arrive tous les jours. Et ben, ça peut nous arriver aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment on pourrait limiter ça. Et c'est là où je me suis posé la question de qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là. Et ça rejoint la FAQ dont on va parler tout à l'heure. La voiture, c'est une arme.
Oui.
Point barre.
Ouais.
Ne discutons pas plus, c'est une arme, donc que tu fasses quoi que ce soit pour sécuriser ça, on reste avec quelque chose qui fait plus d'une tonne et qui est lancé à pleine vitesse.
Oui.
Il y a eu pas mal de campagnes pour essayer de limiter la mortalité sur la route, notamment celle dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, de limiter à 80 km/h au lieu de 90, qui a un vrai impact sur la mortalité, et typiquement que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont rejeté en masse, et que là, tu dis... Tu t'indignes qu'une femme ait perdu son fœtus à cause d'un accident de la route, mais ça arrive aussi quand quelqu'un roule à 90 au lieu de 80. C'est vraiment des décisions sont importantes. Et pourquoi on s'indigne de la consommation de substances et pas de qu'on est contre la baisse, par exemple, de la vitesse. Alors je mélange un peu tout, mais vous voyez ce que je veux dire.
Je pense que l'indignation, elle vient du fait que respecter une limitation de vitesse, tu vois, t'as un côté qui est pas tangible. C'est-à-dire que si tu respectes à 90 ou pas. La différence entre 80 et 90, il y aura toujours une marge d'interprétation sur oui, mais est-ce que ça a vraiment causé ça ? Alors que quelqu'un qui consomme de la cocaïne, enfin qui consomme n'importe quelle substance ou qui a une action qui a sciemment négligé, qui s'est sciemment mis en danger, pas juste par le fait de conduire, c'est-à-dire que tu as une action extérieure, regarder ton téléphone, consommer de la drogue. T'as un truc qui fait que même si t'as pas l'intentionnalité de tuer quelqu'un, il y a quand même un geste qui vient de dire bon bah voilà, t'étais pas concentré.
Oui, mais de dépasser une limite, c'est la même chose. C'est qu'il y a consciemment une volonté de ne pas être dans les règles et de mettre les autres en danger.
Tu disais la différence entre 80 et 90. Moi, je pense que c'est pas tout à fait le même.
La différence de mortalité est démontré entre 80 et 90.
Oui, et mais c'est pas le même facteur qu'entre consommer de la cocaïne et au volant.
Aujourd'hui, c'est la prise de substance et la prise d'alcool au volant.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu une indignation à deux vitesses, justement.
Oui.
Ah, deux vitesses, mobilité, commute. Une indignation à deux vitesses, c'est-à-dire que tu vas être effectivement pour punir les gens qui prennent des substances, mais ne pas vouloir être pour zéro d'alcoolémie au volant, par exemple. Dans ce cas, non, on ne sait pas quand est-ce qu'on est dangereux. Par exemple, il y a la question de la vitesse, mais les gens qui s'indignent de devoir baisser de 10 km/h sur leur trajet, si ça a un impact sur la vie d'autrui qui est prouvé, mets-toi aussi dans cette position. Il y a la question, je te sens vouloir réagir là-dessus.
Non, mais je te laisse dérouler, je réagirai plus tard.
Du coup, ma question, c'est comment tu l'as fait baisser ? Je veux avoir des idées avec vous, parce que vous savez que je vais me présenter comme présidente de la République pour supprimer tous les hommes au volant à terre.
Bien entendu, j'ai peur d'ailleurs.
Pas moi.
Je ne sais pas si je voterai pour toi, Chloé.
Mais pourquoi pas ? Pour moi, il y a deux façons. Il y a soit de la dissuasion, ou de la peur de ce que tu peux avoir comme conséquence, ou de l'encouragement. Et ça... C'est un truc un peu nouveau, je ne savais pas que c'était possible, mais il a été question dans des programmes politiques de réfléchir à de l'encouragement si tu es un bon conducteur. Si tu as 12 points, si tu les maintiens, si tu fais ça, tu peux avoir de l'encouragement. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, parce qu'ils n'ont jamais vraiment développé, mais c'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé en me disant « Bah ouais, en fait, pourquoi pas ?» Pourquoi Moi, j'ai jamais perdu. Ah si, j'ai perdu des points. Mince, ça marche pas.
Qui n'a jamais perdu deux points ?
Moi, j'ai perdu un point.
Jamais. Notre réel, Vincent Zu, n'a jamais perdu de.
Et ben voilà, vous devriez être récompensé et avoir.
J'ai jamais perdu de points, mais clairement, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas le conducteur le plus respectueux des limitations de vitesse.
Comment t'as fait pour pas perdre deux points ?
J'ai Waze.
Ah ouais.
Non, mais je voulais.
Mais voilà, tu vois, ça me choque tout autant que tu dises ça plutôt que tu dises.
Est-ce que j'ai déjà tué quelqu'un ?
Non mais,
non mais je sais, bien sûr.
Non mais voilà. Évidemment. Mais...
Non, je réagis sur deux points. Je pense que les deux vont main dans la main, l'incitation et la répression. Je suis pas quelqu'un qui est spécialement fan de l'intervention policière. Pour plein de raisons.
Ouais.
Je suis un.
Bah surtout, ça coûte des sous.
Je suis un homme de gauche.
Je suis dans mon
déjà, déjà présidente. Hein.
Voilà, qui aime bien manifester sans qu'on m'éborgne. Mmh. Le fait est qu'aujourd'hui, et la semaine dernière, j'ai eu le cas d'un gentil monsieur avec sa camionnette qui m'a coupé la route, qui m'a mis en danger avec le vélo et qui, quand je lui ai fait remarquer, s'est arrêté en mettant ses warnings et en me menaçant physiquement. J'ai dû lui signifier qu'on était à 300 mètres d'un commissariat et que si vous voulez, on pouvait en discuter avec la police. Et le mec a continué à s'énerver jusqu'à devant le commissariat et c'est l'intervention policière qui l'a arrêté. Et même avec les policiers présents, il continuait à monter en pression. Donc en fait, je pense que ces personnes-là, tu ne peux pas les atteindre par le biais de l'empathie et de l'incitation.
Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, et ça serait bien qu'il y ait les deux qui fonctionnent.
Il faut qu'il y ait un système répressif efficace, le genre de truc. Moi, je suis à fond pour l'installation des caméras et la verbalisation systématique de tous les gens qui se mettent sur les pistes cyclables, qui respectent pas les passages piétons et tout.
Ah ouais, voilà. tu veux
ouais, ouais, moi je suis à fond Matrix, Blade Runner, on
ah
arrête
ouais,
tout le monde,
ouais, d'accord,
je m'en fous,
okay.
Tu vois. Mais du coup, je me l'appliquerai à moi-même. Genre, moi, ça me dérangerait pas, mais c'est juste que, vu que tout le monde dépasse un peu des bords, bah je m'autorise à dépasser un peu des bords sur la vitesse sur l'autoroute.
Ok, alors je vous soumets mes trucs.
Et attends, juste deux secondes, on en discutait sur le Discord, parce qu'on a plusieurs à avoir communiqué notre peur de mourir à vélo et nos altercations régulières, et il y a quelqu'un qui disait, bah oui, mais en Hollande, ils sont hyper respectueux des cyclistes et tout, ce qui est vrai, mais on avait discuté avec des Hollandais qui disaient, mais en fait, les amendes et le cadre légal... si t'as un accident avec un piéton ou un vélo
énorme, c'est ça,
tu te fais matraquer la gueule.
Alors justement, c'est une bonne transition pour vous parler de mes idées que j'ai piochées ça et là dans des pays différents dont je n'ai pas les noms, donc c'est du pifou, mais ça existe. Il y a la question, et c'était une question de la FAQ, il y a la question de l'amende qui est indexée sur tes revenus.
Ouais.
Je trouve que c'est la meilleure idée de la Terre. Ce qui fait qu'il y a eu des amendes d'excès de vitesse. La plus grosse est montée jusqu'à 400 000 euros puisque c'était un millionnaire ou un multimillionnaire.
C'était en Finlande, ça, je crois.
Et je trouve que c'est extraordinaire parce que, effectivement, quelqu'un qui est très riche et qui a une amende même de 500 balles, il s'en fiche. Quelqu'un qui a un SMIC et qui a une amende de 500 balles, il va y réfléchir un peu plus. Donc, du coup, le fait de l'indexer à ton salaire, c'est logique, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas comme ça en France. Autre chose dont on m'a parlé cet après-midi, c'est que, je ne sais pas si c'est en Suisse ou ailleurs, si tu es coupable d'un accident de la route et que tu as bu et que tu dois te faire soigner, les frais d'hospitalisation sont à ta charge.
Ah oui.
Tu arrives, tu souffles, si tu es à bu, c'est pour toi. Donc je peux te dire que des frais d'hospitalisation, tu les sens un peu passer, quoi. Je trouve que c'est assez dissuasif. Et franchement, tu prends ton volant en sachant que potentiellement tu vas devoir payer 4000 balles parce que tu es allé aux urgences. Tu réfléchis à deux fois avant de boire. La question du permis. Alors, toute l'affaire Palmade, moi j'en ai beaucoup discuté avec Pierre, mon compagnon, qui est donc handicapé et qui lui a un permis spécial. Quand tu es déclaré handicapé, tu ne peux pas avoir le même permis que tout le monde. Tu dois le repasser régulièrement. Tu dois avoir un avis d'un médecin. Tu dois avoir comme ça. La question de l'addiction, autant de l'alcoolisme que de l'addiction à de la drogue, c'est une maladie chronique. C'est pas il aimait bien prendre la coke. Non, c'est la maladie chronique qui devrait être reconnue, qui devrait permettre d'être soignée en tant que telle et surtout d'avoir les conséquences d'une maladie chronique. Au même titre qu'un handicap, c'est que si tu es déclaré alcoolique, si tu es déclaré addict à des substances, ton permis n'est pas le même que quelqu'un qui n'a pas ça. Et ça devrait être une évidence de dire ok, pas de souci, t'es alcoolique, et dans ce cas-là, ton permis, tu dois le repasser tous les deux ans, ou alors t'as des trucs sur ta voiture avec un éthylotest obligatoire ou des choses comme ça.
Mais comment ça, pas de problème, t'es alcoolique?
Mais en fait, au même titre, Et j'ai vu ça sur CNews, figurez-vous, putain, je suis vraiment allée loin pour cette chronique. Ils avaient invité un médecin qui disait, il faut qu'on arrête avec la question de l'addiction. L'addiction, c'est une maladie. Donc, c'est juste une maladie chronique, donc je sais pas comment te dire autrement. Ça veut dire que du coup, tu vas être... enfin traiter en conséquence. C'est-à-dire que oui, tu peux vivre avec, oui, tu peux te soigner, mais ça sera constamment en toi. Les alcooliques te le disent. Hein,
c'est vrai.
On ne va pas débattre longtemps du sujet, mais je trouve que pour ça, au même titre que la vieillesse, dont on avait parlé sur la question du permis...
Qui est une maladie chronique incurable.
C'est une maladie chronique, mais il y a certains pays où à partir de 60 ou 65 ans, tu dois repasser ton permis ou avoir des contrôles réguliers. Mmh. Parce qu'ils savent que tu es plus dangereux qu'une personne de 20 ans.
Ouais, bien sûr.
Mais même,
bien sûr,
moi, au-delà du fait que ce soit en vieillissant, c'est que tu regardes la qualité des examens de permis de conduire des gens qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui, clairement, la qualité de l'examen, c'était pas le même que ce qu'on a passé aujourd'hui, quoi. Moi, ce serait quand même chouette que, par exemple, des gens qui conduisaient quand il n'y avait pas de rond-point, on leur apprenne à prendre des ronds-points.
Ouais. Oui, mais même, moi, je pense... revenons à réécouter l'émission sur le permis, parce que je trouvais ça intéressant de dire que tu devrais... Pour tout, hein, même pour les vélos, on devrait passer une forme de permis, enfin maintenant un peu plus pour les deux roues électrisées. Mais
au moins apprendre le code de la route.
Exactement, apprendre le code de la route. Et aussi, c'est ce que j'avais dit dans l'émission, il me semble, se mettre à la place de chaque usager. Oui. C'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi d'être dans un camion, oui, un semi-remorque, qu'est-ce oui que je vois?
Tiens, regarde.
Dans un bus, qu'est-ce que je vois? Quand fait je suis à vélo et que j'ai l'habitude dans une voiture, ah, c'est ça d'être à vélo, etc.
Ouais.
Donc moi, j'avais d'accord dit, ok, casque vert pour tout le monde pour se mettre dans la peau de...
j'en parlerai dans la FAQ après.
Et dernière chose dans mon programme de présidentiel, j'ai vu un TikTok d'une Américaine qui disait, ok, vous voulez pas interdire les armes? Pas de souci. On sait que la plupart des accidents mortels avec des armes... sont créés par des hommes, au même titre que la plupart de l'accidentologie en voiture
générale,
est
ouais
créée par des hommes, et ben interdisons aux hommes d'avoir une voiture, ou alors un permis spécial pour les hommes en disant « Désolé les gars, les sondages montrent que le fait que tu sois considéré comme un homme, et ben ça fait que tu as beaucoup plus de chances de créer des accidents. Ben, dans ce cas-là, ton permis doit être plus dur, ou alors soumis à plus de contrôle, ou à des choses comme ça. » Et si on va aller dans la technologie, dernière chose, oui, peut-être mettre des radars partout, je suis un peu d'accord, mais c'est peut-être un peu compliqué. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a la technologie, le démarrage bloqué par éthylotest ne soit pas obligatoire sur toutes les voitures.
Ah,
c'est
oui,
vraiment
ça,
une question de politique nationale, de dire non, toutes les voitures vont être comme ça. Quoi.
Ouais. Moi, c'est équipé pour tous ceux qui ont commis, il me semble, un délit hein, aujourd'hui.
Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit automatique.
Pour les chauffeurs de bus, c'est obligatoire. Pour les transports encore.
Okay. Voilà, en tout cas, beau programme.
Voilà.
Et notre ami Pierre, alors tu recommandes quoi? Des soins intensifs hein, pour lui, c'est ça?
Hein? Ah, bah non, j'attends, je recommande rien. Je recommande d'avoir un procès parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé exactement
c'est pas
et que
ce n'est
pas à nous de juger sur quelque chose dont on n'a aucune idée. Et voilà, moi je dis juste, réfléchissons à la mortalité sur les routes et réfléchissons à la conséquence pour tous de prendre la route autant en tant que vélo, piéton.
Écoutez,
tu parlais de Pierre, son copain. Pendant
oui, moi aussi, c'est pour ça que j'étais là, quoi.
Non, je reviens au début, évidemment, de la chronique avec Pierre Palmade. Merci beaucoup, Chloé. On va passer à la dernière news et je vais vous parler un tout petit peu du mondial de l'auto et de sa... on va dire de sa descente aux enfers. L'année dernière s'est déroulé le Mondial de l'Auto à Paris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit au Mondial de l'Auto et j'ai eu la chance d'y participer et d'aller arpenter le Mondial de l'Auto en totalité. Et sincèrement, moi qui fais les Mondiales de l'Auto quasiment tous les deux ans depuis maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue en cette année 2022. Peu de constructeurs,
aïe,
des stands extrêmement peu inspirés, une place pour la nouveauté qui est malheureusement eh bien, pas trop là, même si certains constructeurs comme Renault ou le groupe Renault de manière générale avaient fait des efforts, une grande partie des véhicules montrés sont des nouveaux véhicules chinois, très intéressants hein, au demeurant, mais pas spécialement des véhicules ni de rêve, ni de prouesse technologique extraordinaire. Bref, globalement, extrêmement rompiche et très peu mise en avant. Ceci, en plus, me fait écho au fait qu'il y a quelques années, le Mondial de l'Auto mettait en avant tout un pan mobilité avec un espace complet dédié à la mobilité. Et je me suis rendu alors à ce qui a remplacé ce fameux espace mobilité. Et il y avait, on va dire, plus que des exposants indépendants, en fait, là-dedans, avec des stands de caravanes, des stands de modification de voitures, des stands de rétrofitting, des stands d'assurance aussi, mais très peu de stands liés à la mobilité de manière générale. Globalement, on n'y voyait quasiment que des voitures ou des pseudo-voitures, ou quasiment que du deux-roues, du pseudo-deux-roues, et encore de façon très, très, très modérée. Et je trouve ça très triste, puisqu'il y a encore 6 ans, le stand de mobilité proposait les premières trottinettes électriques à l'essai, les premiers vélos électriques rétrofités. Enfin, j'avais vu plein de trucs extrêmement intéressants au Mondial de
l'Auto. Je me souviens de la première année où j'y étais, parce que moi aussi, j'ai fait tous les salons de l'auto depuis, sauf le dernier, d'ailleurs, depuis très longtemps. Et la première édition avec l'aile mobilité, moi j'avais trouvé que c'était un peu... Il y avait des trucs intéressants, il y avait beaucoup de...
C'était pas ouf.
Mais est-ce que c'est pas parce que justement l'offre autre que la voiture est tellement plus grande maintenant que tu peux pas y consacrer juste un corner dans un salon de l'auto qui n'a
peut-être
plus trop de rapport, non ?
Moi je pense que ça a été mal fait et mal développé, et au final, à force d'essayer de développer le côté constructeur automobile, la plupart des constructeurs automobiles se sont tout simplement désassociés du Mondial de l'auto et ont commencé à faire tout simplement leur présentation dans leur coin, un peu comme l'ensemble des acteurs de la tech le font aujourd'hui et se désassocient de grands événements technologiques. On peut parler du jeu vidéo de E3, exactement. On peut parler aussi de Apple et des salons de la tech auxquels ils ne participent plus. Ça devient pareil aussi dans le monde de l'automobile, drivé peut-être aussi par Tesla qui fait aussi ses keynotes régulière, ou le groupe Volkswagen qui aujourd'hui il va de sa keynote pour annoncer les nouveaux modèles de ses véhicules. On s'éloigne grandement des salons et des shows. Alors, bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas, mais il arrive que les salons ont quand même encore d'intérêt parce que ça permet à des constructeurs de rencontrer aussi les consommateurs, ça permet aussi de transmettre et de voir les nouveautés, ça permet de faire des essais de véhicules concentrés. Et un salon qui s'en est vachement bien sorti cette année, justement, c'est un salon qui a eu lieu il n'y a vraiment pas très longtemps. Pareil, Porte de Versailles, c'est Rétromobile. Rétromobile, ça a lieu quasiment tous les ans, Porte de Versailles. Et c'est à la base un salon du rétro, de la rétro automobile, donc tu vois, de l'automobile de collection, du véhicule ancien. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Des nouveaux modèles sont montrés à Rétromobile. Des choses innovantes sont montrées à Rétromobile. Et une des choses qui avait le plus de place cette année au Rétromobile 2023, c'est la part incroyable qu'il y avait pour le rétrofitting automobile, et notamment...
Tu peux expliquer
2 secondes ce que c'est.
Donc le rétrofit auto, c'est le fait de prendre une automobile ancienne et de l'adapter avec une nouvelle motorisation. Très souvent, le rétrofitting, c'est aujourd'hui mettre des voitures thermiques et les passer avec des motorisations électriques. C'est pas forcément ça, mais aujourd'hui c'est très associé évidemment à ça. Et il y a un modèle de véhicule qui vient de tomber dans le domaine du véhicule de collection et qui du coup possède des énormes avantages à être rétrofité, puisque les véhicules de collection...
Comment tu tombes dans les véhicules de collection ?
Il faut 30 ans.
Okay.
Dès qu'un véhicule a 30 ans, il passe dans le véhicule de collection.
Okay.
C'est un véhicule qui va vous intéresser beaucoup, c'est la Renault Twingo.
Première du nom.
Ma première du nom.
La Renault Twingo a 30 ans.
Ça, attends, tu veux dire que là, je pourrais me prendre une Renault Twingo
première
électrique
génération,
si je la rétrofitais ?
Exactement. Et tu aurais des aides pour ça. Et aujourd'hui, il y a des entreprises françaises, locales, qui développent tout simplement des chaînes de montage et de rétrofitage de véhicules anciens. L'autre chose qui est extrêmement intéressant dans le domaine du rétrofitting, c'est que comme les véhicules tombent dans le domaine un peu public et dans le domaine du véhicule de collection, les moules qui ont servi à la fabrication de leur carrosserie, de leur portière ou même de leur pièce d'usage, elles aussi tombent dans le domaine public.
Ah ouais.
Et du coup, on peut, et ça on connaît beaucoup ça dans le domaine du rétro gaming console de manière générale, on peut commander, mouler des pare-chocs de Twingo maintenant faits par des... tout simplement amateurs, parce qu'ils ont le droit de le faire et ils ont le droit de les vendre.
Donc
ça n'appartient plus à Renault.
Donc ça veut dire que demain, si je lance ma marque Chloé Mobile, Je peux reproduire exactement une Twingo et la vendre.
Aujourd'hui, on peut reproduire
mais des Twingo. Mais je l'appelle pas Twingo.
On peut reproduire des 4L. On peut reproduire des deux chevaux quasiment à l'identique. La seule chose dont tu as besoin, c'est les châssis d'origine. Mais un châssis, ça se trouve très facilement. Ouais. Tu prends les châssis d'origine, c'est lui qui a le numéro de série. Et ensuite, après, tu fais quasiment tout ce que tu veux. Et grâce à ça, comme la Twingo a été une voiture produite en énorme... Je crois que c'est une des voitures les plus vendues quasiment sur le territoire européen. C'est un truc de malade. Je crois qu'il faut, remonter à la voiture la Lada
il y a eu la Coccinelle aussi qui a été
la Coccinelle aussi vraiment très très vendue pour voir des véhicules qui sont autant vendus. L'avantage de ça, c'est comme il y a beaucoup de véhicules, tu peux énormément rétrofiter en masse et du coup diminuer les coûts du rétrofit pour adapter des véhicules électriques à des véhicules qui ne peuvent très clairement plus rouler, surtout quand on va voir les nouvelles normes critères ou tout simplement les nouvelles normes de pollution en vigueur. Et ça, il y a beaucoup d'aides pour ça. Et du coup, certaines entreprises se sont engouffrées dans ces aides pour pouvoir adapter des véhicules et acheter ou entretenir ton véhicule que tu kiffes en changeant tout simplement la motorisation.
Bah, je propose d'en faire une émission pour rentrer dans le détail.
C'est bien sûr. Alors, c'est
ou alors, venez, on
rétrofite
une Twingo.
On peut faire une émission sur les modifications.
Oui, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas que je peux avoir une clé mobile.
Non, mais c'est super chouette, moi je trouve ça bien parce qu'on a eu une question sur le sujet, sur le rétrofit et sur le fait de l'économie de matières premières que ça implique que je trouve très bien et qu'en plus là on arrive sur des véhicules donc qui il y a 30 ans alors la Twingo première génération c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple mais d'ici quelques années on tombera dans les voitures des fins d'années 90
c'est
avec des airbags, des systèmes de sécurité intéressants et qui n'ont pas tout le, je vais dire le gras, donc le surplus moderne des véhicules très lourds. Donc on peut avoir, par exemple, une Twingo, ça pèse quand même pas grand-chose. Donc avec un petit moteur, un petit pack de batterie, tu peux te retrouver avec des choses...
Revient à ce que je disais sur la dangerosité de la route, c'est aussi toutes ces énormes voitures et SUV qui sont dangereuses. Là, si on avait la technologie... de l'électrique et des bons trucs de sécurité sur des petits gabarits, ça serait un peu le futur génial. Quoi.
Alors, je vous rassure, je vous préviens quand même, un petit disclaimer, vous n'allez pas avoir 500 km d'autonomie dans votre Twingo.
Est-ce qu'on fait 500 km d'autonomie?
Exactement. Ne pensez pas à ça. Vous n'allez pas rechercher aussi la performance dans le rétrofitting.
On s'en fiche, puisqu'on veut limiter à 110.
Le fait de pouvoir avoir des kits qui sont adaptables à des véhicules produits à grande échelle, ça permet de réduire grandement les coûts et du coup d'installer quasiment soi-même des kits de rétrofit sur vos voitures pour pouvoir continuer de rouler avec et même les remettre à neuf.
Donc, tu recommandes le salon du rétro, le salon du camping-car, mais le salon de l'auto,
trop bien.
Bof, bof. Quoi.
Franchement, le mondial de l'auto.
Bah, le mondial de l'auto, moi, franchement, le truc qu'on ait le plus parlé, c'est le multiplat, donc le multiplat de 1000 chevaux de Villebrequin qui sont.
C'est symptomatique.
Alors, je les adore, mais c'est un peu deux débiles qui parlent d'automobiles qu'ils aiment. Et ça rejoint un peu. Pourquoi je pense que Rétromobile est hype, c'est qu'en fait, il y a une vision de l'automobile comme objet un peu plaisir, la beauté de la chose qui est présent dans les véhicules anciens, parce qu'il y avait un peu un côté exception, et c'est pas forcément des véhicules qui sont les trucs les plus performants de la Terre, c'est juste à une bonne gueule et une âme que les véhicules récents ont perdu. Et je me demande s'il n'y a pas un schisme qui est en train de se passer entre l'automobile utilitaire, qui est vraiment juste objet de déplacement, et le truc qui vraiment est pour la passion du 100.98. Quoi.
C'est
je pense que ça peut cohabiter. Et ça me fait penser à un truc que j'ai vu hier, et j'ai pensé à vous en écoutant ce truc-là. J'ai vu une vidéo sur une Porsche électrique, et tu en avais parlé dans un des épisodes de Commus, ça t'avait fait rire, parce qu'il y avait une option pour faire du bruit.
Oui, bien sûr.
Et l'un des principaux reproches qu'on fait aux voitures électriques, c'est qu'il n'y a pas un bruit hyper intéressant. Et le journaliste disait, mais je ne comprends pas ce truc-là, parce que si on prend par exemple des instruments de musique électrique, type un piano, tu prends un synthé, tu peux lui donner tous les sons que tu veux.
Ouais.
Et ce n'est pas moins un instrument de musique. une batterie électrique, tu tapes dessus, ça fait pas de son, mais tu peux lui donner le son. Et pourquoi pas faire ça sur les voitures ? C'est-à-dire que tu dérangerais moins les autres et t'as un côté très plaisir personnel qui vient gratter ceux que ça intéresse et tout. Et je trouvais ça très chouette et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer. Sur l'automobile,
il y a toujours le côté un peu faux de la chose ou le côté pourquoi rajouter quelque chose qui n'existe pas.
Bah là, justement,
la musique
kiff,
est là
quoi.
Pour faire de la musique, mais oui, pour le kiff.
Ouais, mais en fait, justement, parce que là, l'automobile plaisir, c'est pas pour le déplacement. C'est pas un outil de déplacement. C'est un truc pour se faire kiffer en bougeant.
La cacophonie du truc, au secours, quoi.
Ouais. Après, c'est vrai que si on voit sur l'ensemble du monde le fait que les voitures font moins de bruit, on voit ça comme un gain quand même pour l'ensemble des gens qui sont autour de la voiture. C'est vrai que le bruit, c'est pas très agréable pour les autres. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, ça peut être aussi quelque chose qui diminue un peu. Bref, ma recommandation, allez tester Rétromobile si un jour ça vous dit. Il y a vraiment des tas de trucs intéressants. Et ce qui est très intéressant à Rétromobile, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures modernes. Et ça, c'est quand même assez... Fou. Voilà en tout cas pour ces news et ce petit pan de news qui rattrape un tout petit peu notre retard. Déjà 45 minutes d'épisode, on va passer à la FAQ.
Foire aux questions.
Exactement. Et vos questions à la fois Discord, mais aussi Twitter. On commence, Victor, avec une question que tu as choisie personnellement.
Je vais distribuer un peu les questions, parce qu'on a une liste. On va passer. Alors, on va pas répondre à toutes, parce que là, je pense qu'on va pas avoir le temps.
On aura le temps dans un prochain épisode, ne t'en fais pas.
Ça, c'est une petite rapide. C'est Manu Meux qui pose les questions. Est-ce que vous avez des recos cyclistes face à la pluie ? Est-ce que toi, t'as testé des trucs ? Toi, t'es.
Un caouet.
Alors, personnellement, j'utilise des vêtements de pluie. Assez cher, tu vois. Donc, j'ai une veste de pluie pour faire du cyclisme dans des conditions terribles. C'est très léger, c'est très proche du corps, ça ne prend pas le vent, mais c'est extrêmement cher. Voilà, donc c'est pas vraiment ce que je recommande au quotidien. Mais pour ce qui est des jambes, et je pense que c'est le plus important en vérité, parce qu'en haut, tu peux très vite te couvrir avec un bon caouet assez proche du corps. En bas, je mets toujours un surpantalon.
Et le premier prix du surpantalon
Decat.
Parfait. Il couvre les chaussures, génial, 25 euros.
Il se met super en boule dans ton sac ou dans tes sacoches. Il est très bien. Tu le sors que quand t'en as besoin. C'est parfait. Ça coûte 30 balles et si ça fait le taf.
Ouais, si vous voulez un truc un tout petit peu plus design, il y a celui d'Urban Circus. J'en avais parlé quand j'avais ma veste, qui est un peu plus réfléchissant aussi. Moi, il y a deux autres trucs que j'ai mis. Des garde-boue. Ça, c'est vraiment très chouette.
Ça, pour moi, je comprends pas l'utilité encore du garde-boue. Hein.
Franchement,
t'en as pas jusque dans la nuque.
Ouais,
quoi.
Ça, c'est vraiment très chouette pour éviter d'en prendre.
Moi qui n'ai pas de garde-boue, je peux te dire que j'ai une dans la nuque.
La marque allemande qui s'appelle SKS, ils font des garde-boue, y compris pour les gens qui n'ont pas de support de garde-boue avec des trucs qui se clipsent, qui sont très bien foutus. Ça coûte 20 balles, c'est trop bien.
Oui, parce que moi, j'ai un Assaver, ça marche bien s'il y a un tout petit peu de pluie.
Non, là, c'est des vrais trucs.
Pas trop
s'il
pleut.
J'ai déjà essayé aussi, ça marche.
Et une petite paire de lunettes transparentes de chantier, ça sauve la vie on voit quand il y a la flotte prendre de... C'est vraiment...
Alors j'ai une question pour vous justement, que j'ai toujours pas réussi à régler. Moi, mon gros souci quand il pleut, c'est protéger ma tête. Et quand t'as une capuche, déjà la plupart des capuches s'envolent avec le vent qui te vient de face. J'ai appris que maintenant il y a des capuches où je comprenais pas pourquoi il y avait le lien de serrage derrière la tête, et en fait c'est pour ça. C'est principalement pour le vélo.
Tu peux mettre
Tu peux mettre un casque.
Mais non, mais ça ne protège pas tes oreilles ni machin. Et surtout, moi je trouve ça hyper dangereux la capuche, parce que tu peux pas vraiment tourner la tête pour voir ce qui se passe. Et donc je n'ai pas de solution pour protéger les cheveux.
Vas-y Victor.
Donc un casque pour le coup, vraiment. Mais
souvent c'est à jouer en plus.
En fait, moi je mets un petit. Il y a pareil, Decathlon, pas cher, trop bien. Ils ont des sous-vêtements en mérino pour le trek, donc pour la randonnée. Et en fait, ils ont un bonnet qui doit coûter 10 euros. Ça te tient chaud, ça.
Et assez fin pour que tu puisses mettre ton casque par-dessus.
Ouais, en fait, tu le mets. C'est super fin, tu mets juste. En fait, ça fait juste une toute petite calotte en dessous de ton casque. Et moi, ça, j'ai jamais pris.
Même roco. Alors, c'est pas très podcastable, mais tu vois, là, j'ai un tour de cou en mérino.
J'ai cru que c'était
un tour de cou en mérino. Ça ressemble un peu à un vieux slip, mais pareil, j'utilise un bonnet en mérino fin. qui est un bonnet taillé pour recouvrir juste tes oreilles et aller derrière. Le casque se fixe dessus sans aucun
problème. Sachant qu'il y a deux stratégies pour la pluie, c'est soit prendre des trucs très très imperméables, soit prendre des trucs qui sèchent vite. Et le Merino, ça sèche vite. Et pareil, il faut que vous gardiez en tête, plus un truc est imperméable, plus vous allez suer dedans. Donc vous allez pouvoir... Enfin, si vous n'êtes pas mouillé de l'extérieur, vous allez peut-être mouiller de l'intérieur, si vous avez un peu de vélo à faire. Donc voilà, il y a un petit slider, un petit choix à faire entre du plus respirant au plus imperméable.
Et en termes de mains, des petits gants imperméables. Tu sues dedans de fou.
Ouais. Moi, ça va.
Ah ouais ? Ok.
Mais en tout cas, Merino, ça change la vie. Ok. Vraiment, Merino, c'est vraiment la reco. Si vous avez.
Et des kawaii classiques, moi ça.
Des kawaii classiques, ouais.
Fin de cette première question.
Tout à fait.
Toi, t'en avais une que tu voulais.
Moi, je voulais parler un tout petit peu des kits d'électrification de vélo. Il y avait une question par rapport à ça, il me semble.
Tout à fait. Je vais te retrouver qui a posé la question.
D'ailleurs, merci pour vos questions. Elles étaient hyper intéressantes.
Ouais, merci beaucoup.
On va les exploiter sur les prochaines émissions.
Il y en a qui méritent vraiment des développements assez importants.
Celles qu'on ne traitera pas, on ne va pas dire qu'on va toutes les traiter, mais on en fera. C'est Tonton Colette qui demande un avis sur les kits de conversion pour électrifier un vélo. Alors toi, vas-y, parce que tu en as testé. Moi, c'est un avis très théorique que j'ai. Moi,
j'ai testé les kits de conversion vélo. Il faut savoir qu'il y a deux types de kits de conversion d'électrification de vélo. Donc globalement, ça se compose avec une batterie et un moteur. Et ce qui change, c'est les moteurs. Donc les batteries se fixent quasiment tout le temps sur le cadre intérieur de votre vélo. Mm-hmm. Et le moteur, il y en a deux types. Vous avez un moteur adapté directement dans votre moyeu de roue qui vous implique à refaire la totalité du rayonnage de votre roue et à intégrer le moteur dedans.
Ok, donc galère un peu.
Qui peut changer la roue. Galère, mais tu peux acheter une roue toute faite. Okay. Ça coûtera juste un peu plus cher, mais dedans. Et vous avez le fameux kit qui est en fait un moteur qui va se coller sur votre roue arrière et ni plus ni moins
sur le pneu,
sur le pneu et faire tourner la roue arrière. Et moi, j'ai testé les deux. Le meilleur étant évidemment le kit qui change la roue arrière pour installer un moteur dedans. D'ailleurs, ce sont des kits un peu rétrofit qu'utilisent déjà énormément de boîtes qui font du fixie mais qui veulent les électrifier, etc. etc. Sachant que vous avez aujourd'hui des kits batterie plus moteur intégré dans le moyeu arrière. Donc, vous avez juste à recharger votre moyeu arrière. Il n'y a même plus de batterie ailleurs. Mais pour ce qui est donc des kits d'adaptation, d'électrification pour les vélos avec donc posés sur la roue, en fait, moi, je vois deux problèmes à ça. Déjà, ça coûte quand même dans les 1000 euros.
Oui, j'ai demandé les prix pour les deux.
C'est très cher. C'est entre 500 et 1000 balles.
Je pense
pour
aux pure électriques, je peux citer d'autres marques comme ça. Et ensuite, vous allez appliquer un frottement supplémentaire sur votre roue. Voilà, donc un peu comme si vous avez déjà fait du rouleau peut-être à vélo, c'est quelque chose
qui frotte dessus.
Ça va abîmer votre pneu. C'est efficace, ça marche, vous allez ressentir l'effet d'aide, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un moteur directement intégré. Donc, si vous avez 1000 euros à mettre dans ce genre de rétrofit, je vous conseille plus de revendre votre vélo ou de conserver votre vélo et d'acheter un vélo où l'électrification est intégrée directement. Votre vélo est pensé comme étant électrique parce que c'est pas la même chose un vélo électrique et un vélo, un vélo musculaire.
Mais surtout que moi, j'y pensais parce que je vais déménager bientôt dans un endroit plus haut que je ne le suis déjà, donc il me faut vraiment un vélo électrique. Et j'aime beaucoup mon vélo actuel et je me dis, tiens, pourquoi pas l'électrifier ?
Électrifier.
Et le souci, c'est que moi, j'ai des freins à patins. Et donc, sur un vélo électrique, c'est hyper dangereux.
Il faut des vrais freins qui vont bien. Oui.
Je vais oublier cette idée.
Moi, c'est un peu ça, le fond du sujet, c'est que soit vous avez déjà un bon vélo. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est un peu le dénaturer, voire le massacrer de le modifier. C'est un peu des trucs de Frankenstein. Si vous êtes vraiment tight niveau budget, moi je vous conseillerais plutôt de vous tourner soit vers l'occasion, soit vers la seconde, le reconditionné. Decathlon, ils ont des vélos. Sponsorisez-nous s'il vous plaît, le groupe Muliez, là, parce qu'on vous a refait. Mais j'ai été chercher, moi je recommande pas forcément les vélos qu'on trouve sur des sites qui font de l'import chinois, parce qu'en fait il y a des fois vous allez tomber sur des trucs qui sont vraiment très bien et vous allez tomber parfois sur des très grosses merguez. Donc du coup moi j'ai du mal à vous recommander ça, parce que soit vous savez ce que vous faites et vous avez épluché tous les forums du fond d'internet et vous vous y connaissez, soit vous faites un peu au pif et dans ces cas-là ce sera un peu pile ou face. Et moi j'ai du mal à vous recommander ça parce que vous allez pouvoir des fois mettre beaucoup d'argent pour des trucs qui vont vous décevoir, alors qu'un vélo D4 il y en a entre 500 et 750 euros en reconditionné en ce moment. Et ça, globalement, bah, c'est un vélo, quoi, et ça marche, c'est pratique. Et si jamais il y a un problème, vous allez l'amener en atelier et ça marchera, je pense, mieux, moi, en tout cas.
Tout à fait. Sachez aussi que beaucoup de vélos qui ont prouvé aujourd'hui, parce qu'on a un bon retour sur les vélos électriques, hein, surtout de pseudo-startups qui se lançaient dans les vélos électriques. Moi, tu vois, j'ai un Cowboy 3. Aujourd'hui, le Cowboy 3, on sait qu'il y a quelques problèmes, mais les suivis sur le Cowboy 3 est excellent. Ça fait 3 ans que j'ai un Cowboy 3, j'en suis extrêmement content, il fonctionne très très bien. Et aujourd'hui, c'est un vélo qui est à 1 500 € sur leur site et qui du coup peut être acheté pour 1 000 €.
Oui, avec les aides, c'est ça.
Avec les aides.
Alors, ça commence à être des alternatives. Si c'est ton véhicule principal, ça peut pas.
Donc en fait, sur les kits, soit s'ils étaient à 200 balles, ça serait intéressant, mais là.
De toute façon, avec la batterie, c'est impossible que ce soit 200 balles. C'est la batterie que tu payes plus que ça. Et surtout, c'est vraiment des kits qui vont abîmer votre vélo plus rapidement. Sachez-le. Ouais. Voilà. Donc. Prenez un vélo tout intégré, le mieux étant le moteur dans le moyeu de pédalier. C'est le mieux que vous pouvez. Voilà, il y en a des tas. Maintenant, à vous de voir. Mais on ne conseille pas trop l'installation directe, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix.
On a le temps pour une dernière, on est à combien là ?
55.
On a le temps pour une dernière.
Petite dernière question, du coup.
Je vais un peu mixer deux questions, une de KHZ et une de LZenif. KHZ me pose la question, pourquoi les prix des trains européens sont affreusement chers pour voyager entre deux pays, entre des pays différents, je voudrais dire, peut-on imaginer un changement? Et LZenif qui nous pose la question, pourquoi un même trajet intérieur à la France, l'avion est souvent moins cher que le train?
Pourquoi Victor?
Je
me prends de passion
si
pour
vous
le
voulez
train
une réponse longue, je vous recommande un documentaire que je n'ai pas vu. J'ai vu des extraits et ça avait l'air plutôt pas mal.
Moi je l'ai vu, c'est trop bien.
Dis-nous,
de
ça
Hugo Clément.
Ouais.
Ah, ok, bah super.
Ah ouais.
Pardon, je vais manger en même temps.
Il y a le Sur le front, qui est une émission d'Hugo Clément, il a fait un épisode qui s'appelle Mon très cher train.
Ok.
Qui parle de ça pendant très longtemps. Donc là, vous allez avoir des explications bien plus détaillées que ce que je vais vous faire.
Je vais aller le regarder en
30 minutes.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Il développe beaucoup de choses, pas que sur la question des prix de train et tout. Mmh. C'est vraiment un grand panel sur la question du train. Et détaillons-le parce que moi, j'ai découvert ma nouvelle passion.
Le train.
Qui est le ferroutage.
Oui.
Le ferroutage, c'est quand
le fait de mettre ton véhicule sur un train. Ouais.
Ce qui marche beaucoup pour le transport de marchandises, c'est-à-dire que tu arrives avec ton semi-remorque. Et tu viens mettre ton conteneur sur des trains, sur des bases de trains spécifiques pour ça, qui vont sur des lignes de trains spécifiques au ferroutage. Okay. Il faut que je vous en parle pendant des heures, c'est vraiment ma nouvelle passion.
On fera une chronique dessus, si tu veux, parce que même il y a des solutions innovantes maintenant où tu as des wagons qui sont bascules où tu peux mettre un camion en entier dessus.
Exactement ça. Et tu le vois, regarde ce documentaire. J'ai bavé devant.
On reviendra dessus, mais pour répondre très brièvement. Il y a deux raisons principales, c'est que le train paye ses coûts. Alors quand je vous dis ça, vous allez me dire « oui, mais l'avion aussi ?» Pas vraiment. Quand un train il circule sur l'infrastructure, il paye ce qu'on appelle le sillon. Le sillon, c'est le droit de péage. Donc c'est le péage que l'entreprise ferroviaire, donc que ce soit SNCF Voyage pour faire un TGV, mais ça peut être Trenitalia pour les Paris-Lyon maintenant, ou n'importe quel opérateur européen, la Deutsche Bahn par exemple pour les Paris-Francfort. L'entreprise ferroviaire paye un coût à SNCF Réseau, qui est le gestionnaire d'infrastructure, comme vous quand vous allez sur l'autoroute, vous payez vos coûts de votre voiture, mais vous payez aussi le péage. Et bien là, c'est pareil. Ça représente entre 35 à 40% du prix du billet de train.
Oh, donc, c'est énorme!
Ouais, c'est beaucoup. Et en France, Hugo Clément en parle, j'ai vu un extrait, il disait qu'on était un des pays européens les plus chers. Ce qui est vrai, mais on a un des réseaux européens les mieux développés et avec le plus de linéaires de lignes à grande vitesse. Donc il faut peut-être un peu pondérer ce truc-là. Contrairement à l'avion, qui par exemple paye uniquement en aéroport, en aéroport, il y a des tarifications qui sont très avantageuses, notamment sur le kérosène, puisque le kérosène n'est pas taxé, contrairement à l'électricité. puisque la SNCF paye son électricité et paye une TVA de 20% dessus, alors que le kérosène...
la SNCF paye la TVA ?
Tout à fait.
Tu te fous de moi.
Si. et la SNCF, c'est 10% de la consommation électrique française au total. C'est énorme. Donc voilà, il y a eu des
mais
vrais...
Mais stoppons tous les trains !
Il y a eu des vraies questions...
Bah,
y a eu
et
des,
dont y a eu... la SNCF pour développer le train, surtout.
Il y a eu des vraies questions sur les risques de coupure de courant cet été, de savoir s'il y allait avoir des plans de transport réduits parce qu'en Ile-de-France, on parle beaucoup des TGV, mais la plupart des voyageurs en France, c'est des gens dans des RER et des Transilien.
Oui, bien sûr.
Un autre truc, c'est que par exemple, pour les vols européens, donc je ne parle pas des vols intérieurs, là, je reviens sur la question de KHZ, c'est que si vous prenez un Paris-Barcelone, par exemple, tu ne payeras pas de TVA sur le billet d'avion. Alors que
si tu payes un truc, c'est free. C'est vrai.
Alors que le train paiera sa TVA dessus. Donc, en fait, il y a des avantages fiscaux qui font qu'aujourd'hui, l'avion a un avantage compétitif par rapport au train. Et c'est des choix politiques.
Oui, c'est ça.
Okay.
Et c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait aider le train à faire en sorte que ce soit moins cher. Mais c'est déjà le cas parce que, par exemple, le TGV aujourd'hui en France est très peu subventionné. C'est un choix. Et on a eu une question sur la tarification et yield management. Je ferai une chronique dessus. Aujourd'hui, quand on prend un TGV, le TGV aujourd'hui en France, c'est une source de revenus très fort pour la SNCF. C'est leurs trains les plus rentables. Et donc, et vu qu'ils sont très remplis, il n'y a pas besoin de les subventionner puisqu'ils sont pleins. Donc, du coup, ils essaient de maximiser leur marge dessus parce qu'on demande toujours à la SNCF d'être rentable. Mais par exemple, pour les trains qu'on appelle de desserte locale, il y a des aides de la région. On peut subventionner le prix des tickets pour faire en sorte que ce soit plus la collectivité qui va payer, enfin qui va porter le coût que l'individu.
C'est pour ça que tu peux faire des longues distances pour 6 balles, quoi.
C'est ça, ou même prendre certains TER qui seront beaucoup moins chers que d'autres moyens de transport.
Oui, TER, c'est bien.
C'est pas le cas pour tout. Le train aujourd'hui est quand même assez cher, surtout si on se déplace à plusieurs. C'est-à-dire qu'en général, seul ça va, mais quand on commence à rentrer une voiture. C'est bon. Mais par contre, j'ai un peu vérifié quand même sur le prix des trains européens versus les avions. C'est pas si désavantageux que ça.
Pour la Venise, c'est cher quand même.
Ouais, alors en fait, moi j'ai fait les comparatifs des relations pertinentes parce qu'effectivement, si vous prenez la Pologne ou des trucs qui sont vraiment très très loin en train, ça commence à chiffrer beaucoup. Mais par exemple, j'ai fait un trajet type sur donc un aller-retour, partir le vendredi, rentrer le dimanche sur un week-end de mai. Pour un Paris-Berlin, c'est 100 € en train, 149 en avion, sachant que j'ai pris les trajets les moins chers, donc j'ai pas pris un trajet de fin de.
Ah, mais donc de combien d'heures du coup
En train, c'est 6h49 et en avion, c'est un peu moins que ça. Mais c'est moins cher en train.
Ouais.
Pour un Paris-Amsterdam, c'est 201 € en train et 154 € en avion, donc c'est à 50 balles près, donc c'est 25% plus cher, mais en termes de temps de trajet, c'est quand même beaucoup plus simple en train qu'en avion, porte à porte.
Oui.
Un Paris-Lausanne, c'est à peu près la même chose, c'est 93 € en train et 100 € en avion, sachant qu'un Paris-Lausanne en train, ça se fait en 3h30-4h, en avion, c'est une heure de vol plus tout le truc. Un Paris-Londres, c'est 168 € en train, 151 € en avion.
C'est scandaleux, ça. Désolé, mais c'est scandaleux.
Et la dernière liaison que j'ai faite, j'ai pas noté, c'est 124 € en train et 150 € en avion. De mémoire, c'était Paris-Munich.
Paris-Munich,
il me semble.
Okay. Voilà.
Donc, quand il y a des trucs en train, c'est assez proche. Mais assez proche, moi, je trouve que c'est pas assez. Et pour répondre à que faire, il faut subventionner le train. Et comment ? Avec des taxes adaptées. On peut aussi surtaxer l'avion pour faire en sorte qu'eux, ils prennent leur part dans la transition écologique.
Oui.
Il faut aussi parler de la coopération européenne, parce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir des passes, des billets de train qui sont financés par l'Union européenne pour faire en sorte que les trajets soient plus intéressants. On en a déjà parlé, mais il y a un développement des trains de nuit. Parce que si on veut faire que plus d'un week-end et des plus longues distances, il faut organiser les trains de nuit et faire en sorte qu'on puisse les prendre le prix, idéalement pour le prix d'une chambre d'hôtel, comme ça, ça fait un équivalent.
Mais bien sûr.
Et voilà, il y a plein de choses à faire. Et on reviendra, je reviendrai vous reparler de la tarification.
Oui, mais regardez vraiment. Alors, je sais pas, on peut dire du mal d'Hugo Clément, il n'y a pas de souci. Là, je ne me suis pas assez renseignée sur tous les éléments qui.
Moi non plus, c'est pour ça que je vous le conseille sans l'avoir vu complètement. Donc,
Moi, je l'ai vu, mais ça ne pousse pas tout à chaque fois. C'est vraiment un panel de plein de questions. Et il y a notamment la question de la législation sur si un trajet fait moins de 2 heures en train, ouais. L'avion devrait être interdit. Ouais. C'est une législation qui n'est pas appliquée, puisqu'en fait, il y a des petites lignes. C'est ce qu'il explique, c'est que si l'offre n'est pas importante, par exemple, en termes d'horaire, les avions ont quand même le droit de circuler. Ouais, et c'était le cas sur le Lyon-Marseille, où il y a encore beaucoup d'avions qui circulent sur un Lyon-Marseille. C'est exactement le même temps en train qu'en avion, voire même plus long en avion entre le moment d'aller à l'aéroport et compagnie. Et en fait, ce qui dénonçait un peu dans le documentaire, c'est que oui, il y a cette législation qui a été mise en place et qui est intéressante, mais qu'aucune politique financière du gouvernement n'a été mise en place pour peut-être doter la SNCF de plus de trains et de permettre des horaires très tôt sur le Lyon-Marseille, justement, qui est demandé par les usagers et qui sont obligés de se rabattre sur l'avion. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est une débilité législative écologique. Écologique.
On verra ce qui a été fait. Après, toute l'économie était basée sur ces systèmes de taxes, donc c'est pour ça changer tout ça peut-être est
oui,
compliqué.
Oui, mais après, toutes ces questions de volonté politique.
Bien entendu. Voilà pour cette FAQ. Il y en aura d'autres hein, dans
Commune. Oui, on reviendra.
N'hésitez pas à venir nous reposer vos questions. Il y en a encore des sujets très intéressants qui permettraient même de développer des idées de chronique. Donc, en plus, ça nous aide bien. N'hésitez pas justement à nous partager peut-être vos questions et vos idées de chronique. Cet épisode touche à sa fin, Victor. Tu me regardes comme ça. Tu voulais peut-être ajouter un petit mot.
Non, ça m'a fait plaisir d'en refaire un et de s'y tenir pour une heure.
Exactement.
C'était chouette. Dites-nous ce que vous en pensez d'un format un peu plus court et plus intense. Ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous voulez des chroniques fleuves, 2-3 heures on drift et on lance tout le temps, voilà, on va essayer de s'y tenir un par mois et on va essayer de vous faire des sujets avec des intervenants et intervenantes un peu diverses et variées et faire des sujets très cool. On en a un qui nous tient particulièrement à cœur, qu'on va essayer de faire incessamment sous peu.
Le teasing.
Ouais.
Et dites-moi si vous voulez voter pour moi présidentiel.
J'hésite encore, surtout si je dois rendre mon permis.
Ah, écoute, il faut savoir faire des compromis.
Je peux payer une taxe.
Je t'emmènerai, tu seras mon copilote, ça sera très
merci
bien.
Merci, moi de toute façon, je n'ai plus de voiture, vous le savez depuis bien longtemps. Donc ça ira très bien. Merci à toutes
merci,
et tous.
Merci, c'était
merci
cool.
Merci pour la Réal, il s'est disponibilisé d'arrache-pied, c'était très cool.
Adorable, et on se donne rendez-vous le mois prochain. Inch, bisous.
À bientôt. Bisous.